Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tonnerre de Brecht. Comme le dit l'expression « jamais 203 », cette semaine encore, on vous emmène à l'Hôtel Pasteur et au TNB pour la troisième semaine du festival. Venezia est allé voir le spectacle « Wild Minds » et partage avec nous son ressenti en fin d'émission. Et sans plus attendre, on retrouve Léa qui a rencontré ce matin Anna Rispoli pour sa pièce participative « A Certain Value ».
Bonjour Anna Rispoli, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Vous proposez durant ce festival du TNB l'œuvre A Certain Value, à laquelle nous pourrons assister jusqu'à samedi à 15h, à l'Hôtel Pasteur. Plus généralement, vous faites un travail dans les lieux non dédiés, à travers des pratiques participatives. Vos créations interrogent la relation entre l'humain et la ville, puisque vous faites aussi, au-delà des lieux non dédiés, un travail dans l'espace public. Pour commencer, vos précédentes œuvres et performances questionnent donc l'humain dans sa relation avec la ville, et l'un des axes majeurs de cette relation est la question de l'habitat. Vous réalisez l'exploit dans « Volei tento tornare casa » de convaincre près de 500 personnes vivant dans un HLM de confier leur éclairage dans le but d'une création lumineuse anti-confinement. Quels sont les objectifs lorsqu'on l'on réunit autant de personnes autour d'un même projet ?
C'est un projet qui est né vraiment avant tout le problème du confinement et qui prend une nouvelle lumière, évidemment, maintenant. L'idée, c'était vraiment de questionner la condition de captivité dans laquelle les humains se sont eux-mêmes mis. Donc d'habiter entassés dans des immeubles très peuplés, dans des villes très peuplées, dans un monde très peuplé, et à une condition de faire un peu un exercice d'imaginaire. Donc on imagine d'être seul. Ça, c'est pour moi la chose qui m'interpelle. Comment on peut faire cette abstraction du voisinage, de la proximité, de l'interdépendance, en effet, quand on vit dans un monde qui est basé sur l'interdépendance. Et donc l'exercice, c'était vraiment de dire, à la place de faire un effort pour ne pas entendre, ne pas voir, ne pas être dérangé par nos voisins, qu'est-ce que ça ferait, au contraire, de les célébrer, d'être à côté d'eux, sans forcément forcer la participation, sans forcément faire des réunions, sans forcément tirer par les oreilles cette côté social, hyper social de l'humain, mais tout simplement de dire, on fait un acte très simple, comme celui d'allumer la lumière de notre appartement, tous ensemble, dans les mêmes moments, avec un cadre artistique et esthétique, et donc en suivant une partition musicale. Et une fois qu'on a fait cet événement assez incroyable, mais hyper simple, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on a fait. Donc la pièce, en effet, ça se compose en deux parties. Une partie, c'est la performance live, dans laquelle un public est convié à célébrer la normalité de l'entassement humain. Et de l'autre partie, c'est effectivement filmer ces moments et convier les participants, donc les habitants d'un grand immeuble, à regarder son propre immeuble éblouir, être lumineusement exceptionnel.
Et justement, dans Five Attempts to Speak with an Aliena, avec cette performance, vous éteignez cette fois les façades des gratte-ciels de Abu Dhabi. Et donc ça fait deux performances avec de la lumière. Quelle importance vous accordez à la lumière dans vos réflexions artistiques ?
C'est un peu les symboles de l'urbanité, c'est un peu l'air électrique, c'est un peu aussi, ça prend plein de métaphores dans le sens que on voit un peu de l'espace, les villes comme des points lumineux, c'est un peu pour moi le symbole de vivre dans une ville et aussi la problématique de vivre dans une ville. On sait très bien que c'est l'enjeu, c'est carence ou cette abondance énergétique, c'est un peu l'enjeu qu'on est en train de mettre enfin sous la table aussi de toutes les grandes tables politiques. Et dans les cas d'Abu Dhabi, voilà, c'est une ville qui est basée sur l'extraction du pétrole, sur la commercialisation du pétrole. Et donc, il y a un peu cette présomption d'abondance énergétique ab limitum, pour toujours. Sous laquelle se base aussi tout un système géopolitique, voilà, une organisation sociale et sociétale assez complexe, qui est basée un peu sur cette opulence de l'énergie. Et du coup, pour moi, l'enjeu dans ces cas-là, c'était vraiment de mettre un peu un échec pour un petit moment cette présomption voilà, de futur progressiste et progressif de l'humanité. Il y aura un moment dans lequel peut-être il faut faire silence, il faut faire sombre, il faut éteindre ces gratte-ciels opulentes et disons représentatifs. C'est dans les cas, c'était les gratte-ciel qui représentaient la compagnie d'État qui gère un peu les ressources financières liées à l'extraction pétrolière de Abu Dhabi.
Vous collaborez avec différents artistes et acteurs, actrices de la société dans vos œuvres. Je pense notamment à Martina Ancelotti, pour Certain Value, dont on parlera un petit peu après, qui est curatrice, qui est une curatrice italienne. Comment est-ce que vous vient l'envie de collaborer et de travailler avec ces personnes ?
Bah, je pense qu'on pense jamais tout seul. Je ne crois vraiment pas dans la figure de l'artiste génial qui, dans son lit, à un certain moment, a une idée brillante. Je pense qu'on est plutôt dans une attitude dialogique et des penser ensemble, construire ensemble, imaginer ensemble. Et donc, c'est mettre, c'est donner des défis ensemble. Et c'est clair que travailler avec une pluralité de personnes, donc de différents cœurs, sensibilités et têtes, ça nous donne un peu cette occasion de changer la façon dans laquelle on travaille, de découvrir de nouveaux défis, de nouveaux aspects, de nouveaux... En effet, c'est aussi de se poser de nouvelles questions.
Et au-delà des personnes en tant que même, vous travaillez aussi avec des instances étrangères, vous êtes belge, donc des instances étrangères et internationales. En France, par exemple, vous collaborez avec Les Tombées de la Nuit à Rennes et Lieu Public, qui est un centre national des arts de la rue et de l'espace public à Marseille. Quelle est l'importance pour vous de franchir les frontières, d'exporter vos créations et de travailler aussi avec des instances publiques qui accompagnent la création en arts de rue ?
Bah déjà, je suis italienne. Quand j'habitais en Italie, je ne me considérais pas italienne. J'étais adoptée par la Belgique en tant qu'italienne, qui est plutôt liée au circuit néerlandophone que francophone. Et je ne parle pas néerlandais. Ces questions de faire voyager les œuvres, c'est tout à fait... Ça fait partie de la création artistique en tant que telle. Il n'y a pas... Voilà, c'est clair que c'est chouette pour un artiste qui travaille sous l'espace public et surtout sous la chose publique. Donc moi, je ne travaille pas seulement sous l'espace public en tant que ville ou que environnement urbain, mais c'est vraiment sous la chose publique. Qu'est-ce qu'on considère comme public ? Qu'est-ce que sont les choses qu'on met en commun ? Comment on peut réfléchir sous la coopération ? Comment on peut réfléchir sous le faire commun ? Et donc, comment on peut se rapproprier de tous ces concepts ? Et tout ça, c'est effectivement souvent, et c'est important que ce soit comme ça, très ancré dans un territoire. Donc on établit des relations qui sont durables, qui sont profondes et qui commencent petit à petit à comprendre l'esprit, le genius loci, donc l'esprit du territoire. Mais en tant qu'artiste, un avantage, c'est qu'on peut vraiment jouer le rôle de l'extraterrestre. Ça, c'est très important, je crois, pour déplacer les choses qui sont acquises, voilà, les convictions, les croyances qui sont acquises, ou tout simplement les perspectives qu'on a apprises à jouer sur notre territoire, comment on regarde notre territoire. C'est important que quelqu'un arrive d'ailleurs avec une perspective complètement nouvelle, extraterrestre justement, donc alien, pour poser la question d'une façon complètement inattendue. Donc effectivement, la relation entre territorialité, donc mettre les racines quelque part et s'identifier avec un territoire et construire quelque chose de profond, ou alors voyager et effectivement hybrider cette connaissance, c'est deux pôles de la même question.
Et du coup, vous avez organisé à Bruxelles une manifestation qui s'appelle les Marches de la Bourse, où vous avez invité des associations et des actrices de la société civile à venir manifester. Chacun et chacune est venu avec son combat pour composer un tableau festif et revendicatif très fort sur les marches de la Bourse de Bruxelles. Au-delà d'une œuvre participative, il s'agit presque d'un exemple d'action, voire d'une invitation à agir en commun. Qu'est-ce que vous espériez de ce rendez-vous et plus généralement, quels effets attendez-vous de vos créations ?
Mais là, justement, le rôle de l'extraterrestre, en tant que moi italienne, qui n'était pas partie depuis toujours de la société belge, a joué effectivement ce rôle. Une chose qui m'a toujours marquée de la réalité belge, c'est qu'elle est très fragmentée pour deux questions linguistiques. Donc, il y a bon, les deux grandes communautés, néerlandophones et francophones, mais aussi la communauté arabophone, la communauté anglophone, la communauté... il y en a plusieurs. Comment ces communautés militantes, par exemple, si on parle de l'associatif, si on parle des engagements politiques, comment ils n'arrivent pas souvent à collaborer entre eux. Et donc, leur capacité d'impact sur la réalité, aussi sur la visibilité politique, est réduite. Les Marches de la Bourse, c'était vraiment une tentative de faire une invitation transversale à tous les activistes politiques qui ont agi à Bruxelles, indépendamment de quelle langue ils parlent. Et pour eux, c'était vraiment, ça a été un moment assez précieux, assez rare. On est ici pour faire un historique de l'activisme politique à Bruxelles. Donc on a invité des activistes qui ont manifesté sur les marches de la Bourse à partir de 1968 jusqu'à 2015, le jour de la manifestation. Et c'était une manifestation en soi pour les droits à manifester. Ça parce que dans les cas spécifiques, en 2015, les marches de la Bourse, qui étaient historiquement un endroit où on pouvait manifester, même des petites manifestations ou des revendications, ont été interdits à l'activité politique. Parce que les bâtiments en face des restructurations étaient destinés à une compagnie qui allait exploiter commercialement les bâtiments pour le musée de la bière. Et donc n'apprécie pas effectivement la présence dérangeante des activistes. Ça, c'est effectivement un gros scandale parce qu'indépendamment de la propriété privée ou publique du bâtiment, d'ailleurs a été construit avec de l'argent public, c'est clair que c'est un plateau, c'est une tribune pour la parole conflictuelle. Et les conflits, effectivement, quelque chose qui ne peut absolument pas être effacé, surtout du centre-ville, soi-disant touristisé, de notre ville contemporaine.
On a un peu parlé de la dimension internationale de vos projets, c'est le cas aussi de A Certain Value, qui sera donc présenté dès ce soir et jusqu'à samedi 15h. Il s'agit d'une performance participative dans laquelle les spectatrices sont invitées à raconter des témoignages qui ne sont pas les leurs. Ces témoignages sont issus d'un travail de collecte que vous avez réalisé avec Martina Angelotti. Pour commencer, citons vos lieux de recherche et d'exploitation, Common Wallet à Bruxelles, qui est une sorte de banque partagée entre 10 personnes, des habitants du squat 59 Saint-Just à Marseille, des élèves de l'école primaire et du Mars Programme Private Learning Group à Budapest, des membres de la Comunità Italiana à Genk en Belgique et des détenus du centre pénitentiaire des femmes à Rennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ces différentes instances et comment s'est fait le contact avec ces instances-là ?
Bah, tout a commencé du Common Wallet, c'est une expérience dont je fais partie, donc ça a commencé vraiment par un intérêt très personnel sur les nouvelles frontières du partage, comment on peut partager radicalement, dans ces cas-là, à 10 personnes, on partage notre argent. On a un compte en banque commun depuis lequel tout est payé, tous nos frais sont payés, tous nos revenus sont versés et c'est un fonctionnement anarchiste, donc il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas une mesuration, il n'y a pas on ne regarde pas qu'est-ce que les autres ont dépensé. Et à partir de là, l'idée c'était d'aller explorer en Europe quelle autre signification peut avoir les mots partage, partage radical, confiance radicale, etc. Et alors le champ des recherches s'est vraiment élargi avec le collectif Saint-Just à Marseille. On a vraiment exploré la notion de partage d'habitation, le fait qu'on a... On peut habiter ensemble, de quelle façon on peut habiter ensemble entre personnes qui ont des papiers et personnes qui n'ont pas des papiers, personnes qui habitent d'une façon pérenne ou presque pérenne une ville et d'autres qui sont tout simplement des transmigrants, donc qui vont rester quelques mois et après partir ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire habiter ensemble avec une complexité telle ? Avec le détenu du centre de détention des Rennes, on a plutôt exploré la notion d'être forcé à partager, donc comment on arrive à être résiliente, ou comment on arrive à trouver sa propre façon de re-enchanting, la façon de vivre si proche avec d'autres détenus, d'autres vies qu'on n'a pas choisies, d'autres compagnons de vie qu'on n'a pas choisi, et donc aussi la question de l'économie interne de la prison, c'est très très intéressant, très complexe. Et avec les enfants de Budapest, eux, ils nous ont vraiment mis sous la table une question qui est brûlante pour eux, c'est comment on partage la terre, c'est-à-dire quelle est la responsabilité que les adultes prennent ou ne prennent pas par rapport au fait qu'on est en train de détruire la notion même de possibilité de partage, c'est-à-dire vivre sous la même planète, la crise écologique qui est ignorée, surtout par le gouvernement hongrois. Donc ce sont des quatre questions assez différentes aussi par rapport à leur ampleur, très intime ou très globale, et qui en même temps ont énormément des liens entre eux. Et donc l'idée, c'était de mettre autour de la table, d'une table idéale, parce que c'est un peu de la docu-fiction. On a enregistré énormément d'interviews de tous ces participants. Et à partir de ces interviews, on a composé une conversation idéale qu'on invite les spectateurs à rejouer. Donc les spectateurs qui sont conviés à ces spectacles prennent le rôle de l'une ou de l'autre personnage pour travailler avec leur voix, le propre capacité de réinterpréter leurs mots, travailler ces constructions de savoir commun. Et ensemble, on discute en effet de comment on travaille ensemble, comment on fait coopération, comment tout simplement on s'organise dans un groupe et comment on arrive à continuer à faire une négociation entre nos besoins émotionnels, privés, individuels et les grands enjeux idéaux et les grandes valeurs qui nous animent.
Une frontière semble perdurer un peu dans ce projet, c'est la question de la langue. Donc il y a des personnes interviewées qui étaient françaises, du coup des enfants hongrois, peut-être même du wallon pour la Belgique ou de l'anglais en tout cas. Comment est-ce que vous avez fait ce travail d'adaptation linguistique et quelles ont été les contraintes pour le rendre accessible à tous et pour conserver aussi le discours?
Bonne question. Là, c'est vraiment toute la grosse question de la traduction qui s'ouvre et surtout de la traduction de la langue orale. C'est pour ça que je dis que c'est à la fin de compte un peu une docu-fiction parce qu'on s'approprie des mots de quelqu'un d'autre et on essaye de les naviguer, de naviguer à travers en rendant vivant quand même dans une autre langue. Donc c'est clair qu'il y a un travail de réappropriation aussi affective. Donc le travail des traductions est toujours un travail de reconstitution et aussi émotionnel. Donc ça dépend un peu, le spectacle a été présenté en plusieurs langues d'ailleurs, donc elle a été présentée en anglais, en italien, en français, et prochainement ça va être en néerlandais aussi. Donc c'est plusieurs passages des langues à laquelle effectivement on a choisi par exemple de changer les noms de personnages de sorte qu'ils deviennent quelque chose d'autre que les personnes qui ont animé et qui ont inspiré ces personnages, pour permettre un peu un détachement, pour permettre de lui avoir une vie à leur propre.
Ce spectacle a été programmé à la précédente édition du Festival du TNB, donc en 2020. édition qui a été annulée. Est-ce que, et pour les raisons qu'on connaît, la crise sanitaire, est-ce que cette période, la crise sanitaire, a fait évoluer les différents témoignages de ce spectacle ? On pense par exemple au fait qu'on ait vaguement entendu de la gestion catastrophique des prisons pendant la crise sanitaire. Est-ce que ce contexte sanitaire apparaît dans les discours ? Est-ce que ça a modifié les discours qui ont été tenus ?
Alors, nous n'avons pas fait une nouvelle recherche pendant la période du confinement, aussi parce que c'était tout simplement impossible de rentrer en prison. C'était très difficile aussi d'avoir des contacts avec les détenus. Et donc, on n'a pas fait évoluer dans le sens d'accumulation de nouvelles matières les textes du spectacle. Par contre, je crois qu'à travers ces deux années de traumatisme collectif, je peux dire, je pense qu'on peut lire différemment les textes, comme il a été créé. Donc, toutes les choses, tous les enjeux prennent une autre ampleur. La crise de la détention, donc la surpopulation, on sait qu'en France, il y a aussi des actions de réduction des peines accélérées, justement pour permettre à chaque détenu de se confiner chez eux et pas tous ensemble. c'est le cas de certains des protagonistes. Et c'est clair que aussi pour moi la grosse dénonce des enfants par rapport à la crise écologique est entendue d'une façon différente maintenant en 2021 qu'en 2019 quand le spectacle a été créé.
Et du coup, il n'a jamais été autant question de faire société que maintenant après cette période de crise. Nombreux sont les acquis qu'il a fallu remettre en question. Est-ce que cela vous inspire d'autres dispositifs pour appuyer encore plus l'importance de faire société ?
Oui, j'ai... C'est une question qui touche vraiment un peu un point brûlant, je trouve. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule. J'entends aussi autour de moi plusieurs artistes, plusieurs personnes qui travaillent dans la culture qui se posent la question de quel poids donner, quelle temporalité donner à l'activisme ou à la création artistique. Est-ce que les deux choses commencent à confluir de plus en plus ensemble? Est-ce qu'on prend plus de temps pour l'activiste parce que finalement on a vraiment très peu de temps pour faire changer les choses et c'est très très urgent? Donc dans mon cas, la question est vraiment ça. Donc je m'occupe de plus en plus des prototypes de solidarité, par exemple dans les arts, des prototypes de activistes de partage des ressources, de différents types de ressources. Et je me demande quel type de... Certainement, comment dire, l'ambition et tous les star systems ou le show business qui tournent un peu autour de la culture nous apparaît un peu futile en ce moment. C'est vraiment pas ça l'enjeu en ce moment. On a tellement peu de temps pour sauver le sauvable, je dirais, ou au moins repartir avec un espoir, que ce soit un espoir ancré dans de la vraie vie et pas de l'illusion, comme on a été capable de... On s'est nourri d'illusions pour trop longtemps, je trouve. Donc, je ne sais pas répondre à quel est le nouveau prototype esthétique avec lequel on va sortir en 2022. Mais pour l'instant, par exemple, je suis en contact avec un groupe de soignantes et des travailleuses domestiques extra-européennes qui ont développé une façon de faire manifestation, de faire démonstration publique que j'adore, donc basée sur la cumbia. Et à partir de là, il amène un message féministe, transféministe même, sous les droits des travailleurs et sous la réflexion radicale de réinterpréter qu'est-ce que ça veut dire les soins des autres, les soins de soi-même, les soins de la planète, etc. Je trouve que dans la simplicité, l'extrême popularité de ce qu'ils arrivent à amener comme message, c'est très très juste. Et donc je suis en ces moments en train de rechercher avec eux quelle sera la forme, mais je n'ai aucune idée en ces moments.
A Certain Value est joué par vous, auditeurs et auditrices, jusqu'à samedi 15h, et justement c'est un spectacle participatif. Donc pour conclure, participatif, c'est un thème qui peut un peu effrayer peut-être même aussi le public du TNB qui est habitué à pas être trop secoué dans son fauteuil. Alors comment est-ce qu'on peut rassurer les auditeurs et les auditrices autour de cette question du participatif ?
Alors, c'est une participation très simple. Il faut juste lire, il faut juste amener ses lunettes au cas où c'est nécessaire. Il faut juste se laisser aller et c'est une ambiance très bienveillante. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas... Donc on est tous dans le même bateau. L'idée, c'est vraiment qu'on fait avec les moyens de bord. Et les moyens de bord, c'est nous. C'est les personnes qui viennent et qui participent avec une énorme bienveillance. Donc, il ne faut pas stresser. Il faut juste ouvrir un petit peu quelques petites portes de cœur pour laisser aller un peu de générosité. Et en effet, ce qui revient à la personne qui s'engage est beaucoup plus de ce qu'elle donne, parce qu'on multiplie pour toutes les personnes qui sont présentes l'énergie qui circule. Donc, pas de stress, c'est facile, venez et c'est amusant.
Merci beaucoup, Anna Rispoli.
Merci à vous.
Merci à Anna Rispoli pour son accueil et à Léa pour cette interview d'une grande qualité. On se retrouve dans quelques instants, juste après Money des Pink Floyd.
it's a crime. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away. Away, 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 away.
I was in the right.
Yes, absolutely in the right.
I certainly was in the right.
Vous êtes toujours sur Syllab dans Tonnerre de Brecht, c'était les Pink Floyd avec leur morceau Money. On rejoint Venezia qui va nous parler du spectacle Wild Mints.
Pendant ce festival TNB, j'ai erré de salle de spectacle en salle de spectacle. Je me suis assise face à la scène sur des sièges en tissu très confortables. Je me suis installée sur des bancs au premier rang, pieds sur la scène, avec l'autre moitié du public en face de moi. Je suis descendue dans le sous-sol du TNB pour m'asseoir en cercle avec le reste de l'auditoire et les comédiens parmi nous. Dans cette dernière disposition, le bon nombre de chaises nous attendait. L'éclairage au-dessus de nos têtes permettait de nous observer les uns les autres. Nous existions en tant qu'individus, nous participions à la représentation. Pas seulement comme observateurs, mais l'écoute que nous apportions, les rires maladroits, prouvent que personne ne s'ignorait. Il s'agit de la pièce écrite par le Suédois Marcus Lindin et traduite par Marianne Segal-Samoa, nommée « Wild Minds ». Le dramaturge a effectué un réel travail d'investigation auprès des personnes atteintes du TRC, le trouble de la rêverie compulsive. L'auteur va infiltrer des forums anonymes et obtenir des entretiens avec le consentement des individus. Ce syndrome a été découvert il y a à peine 10 ans par le professeur de psychologie clinique israélien Eli Sommer. Les personnes qui en sont atteintes se détachent petit à petit de la réalité pour donner une partie de leur temps éveillé à la construction et à la narration de leur monde imaginaire. Mais peut-on parler de pathologie ? Car tous ces êtres concernés sont pleinement conscients du rêve et choisissent quotidiennement de s'adonner à leur fiction en la cachant la plupart du temps à leurs proches. C'est donc au cours de cette thérapie de groupe que les acteurs vont échanger sur leur processus de création de cette vie parallèle, mais aussi sur leurs doutes et leurs peurs. Les personnages se dévoilent progressivement en émergeant du cercle du public et par la personnalité de leur double fictif. Le TRC, par le biais de la construction de plusieurs identités, serait-il alors un moyen de combler les déceptions auxquelles nous faisons face dans nos vies ? Dans cet espace où personne ne s'ignore, les 40 minutes de spectacle créent une proximité émotionnelle et font naître une tension. Nous sommes plus près de l'acteur que du personnage et c'est à ce moment que la performance se ressent, car nous partageons tous ensemble un moment de confession. L'univers fictionnel de la pièce s'apparente alors à celui du trouble de rêverie compulsive, en nous plongeant dans une propre remise en question de notre quotidien et de nos rêves.
Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci à Léa pour le montage de celle-ci. On se retrouve la semaine prochaine à 19h sur les ondes de Syllab. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous.
Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.